Espacement doré, lacune, ils sont vus, les déserts verts, on les rêve, on les parlera, les oiseaux de jet immobiles, les armes couchées au soleil, le son des voix chantantes, les mortes, les mortes, les morts. Connivence, révolution, sale ardeur au combat, chaleur intense, mort et bonheur dans les poitrines mamelées, les phénix, les phénix, les phénix célibataires et dorés libres, on entend leurs ailes déployées. Les oiseaux, les sirènes nageantes, les arêtes translucides, les ailes, les soleils verts, les prairies violettes et plates, les cris, les rires, les mouvements. Elles affirment triomphant que tout geste est renversement.
Bosé, Baptiste, Sarah, Nice, Yol, Corée, Sabine, Daniel, Gansvint, Edna, Joseph, Flore, Zita, Savé, Cornélie, Dropadi, Julienne, Etmel, Chloé, Desdemone, Raphaël, Iris, Vera, Arsinoe, Elise, Brenda, Orphis, Hérodia, Bérénice, Sigrid, Andover, Aimé, Pomme, Barbe, Bénédicte, Suzanne, Cassandre, Osmonde, Jeanne, Hermine, Kika, Aurélie, Évangéline, Simone, Maximilienne, Calypso, Judith, Anne, Isote, Christa, Robert, Blasta, Cléonis, René, Maria, Béatrice.
Monique la police, Vitic part en guerre.
Salut. Et ben voilà, c'est Monique la police, Vitic part en vacances, puisque on est le 31 juillet et que l'émission qu'on a préparée n'est pas super bien préparée. Donc on va pas faire d'analyse de texte comme on a pu le faire les dernières fois. En revanche, on va vous mettre dans une ambiance particulière. En lisant cette fois-ci des passages sur les féminaires, mais ceux-ci vont suivre, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre des paragraphes qui parlent uniquement des féminaires à l'intérieur du livre et parmi les différentes pages où certes, les paragraphes parleraient des féminaires. On va partir d'un des paragraphes qui parle des féminaires et ensuite, lire tous les autres à la suite, jusqu'à ce qu'on en ait marre. Non, jusqu'à ce que le passage, enfin, ce qu'il y a à dire sur les féminaires soit un peu clôturé, on va dire ça.
Ou jusqu'à ce que la musique s'arrête.
Voilà, jusqu'à ce que la musique s'arrête, si on veut. Voilà, du coup, on va faire de cette émission uniquement des lectures, et on fera les analyses de texte plus tard, quand on bossera vraiment là-dessus, parce qu'avec les vacances, c'est assez compliqué. De se mettre dans ce mode-là. Voilà. Du coup, voilà. On vous souhaite aussi de vous mettre en mode vacances et de profiter juste. Il n'y a qu'à écouter des gens qui lisent. À propos des féminaires, elles disent par exemple qu'elles ont oublié le sens d'une de leurs plaisanteries rituelles. Il s'agit de la phrase « C'est vers le soir que l'oiseau de Vénus prend son vol ». Il est écrit que les lèvres des vulves ont été comparées à des ailes d'oiseau, d'où le nom d'oiseau de Vénus qui leur a été donné. Les vulves ont été comparées à toutes sortes d'oiseaux, par exemple à des colombes, à des sansonnets, à des bengalis, à des rossignols, à des pinsons, à des hirondelles. Elles disent qu'elles ont déterré un vieux texte où l'auteur, comparant les vulves aux hirondelles, dit qu'il n'en connaît pas qui aille de mieux, ni ait l'aile si vite. Cependant, c'est vers le soir que l'oiseau de Vénus prend son vol, elles disent qu'elles ne savent pas ce que ça veut dire. La toison d'or est une des appellations qui a été donnée au poil qui recouvre le pubis. Quant aux quêtes des toisons d'or auxquelles certains mythes des temps anciens font allusion, elles disent qu'elles en savent peu de choses. Elles disent que le fer à cheval, qui est une représentation Jules Verne, a été longtemps considéré comme un porte-bonheur. Elles disent que les figures les plus anciennes pour décrire les vulves ressemblent à des fers à cheval. Elles disent qu'en effet, c'est par de tels dessins qu'elles sont désignées sur les parois des grottes paléolithiques. Elles disent que les féminaires privilégient les symboles du cercle, de la circonférence, de l'anneau, du haut, du zéro, de la sphère. Elles disent que cette série de symboles leur a donné un fil conducteur pour lire un ensemble de légendes qu'elles ont trouvées dans la bibliothèque et qu'elles ont appelé le cycle du Graal. Il y est question des quêtes pour retrouver le Graal, entreprises par un certain nombre de personnages. Elles disent qu'on ne peut pas se tromper sur le symbolisme de la table ronde qui a présidé à leur réunion. Elles disent qu'à l'époque où les textes ont été rédigés, Les quêtes du Graal ont été des tentatives singulières, uniques, pour décrire le zéro, le cercle, l'anneau, la coupe sphérique contenant le sang. Elles disent qu'en juger par ce qu'elles savent de l'histoire qui a suivi, les quêtes du Graal n'ont pas abouti, qu'elles sont restées à l'ordre du récit.
Il y a aussi les légendes où les jeunes femmes ayant dérobé le feu, leurs vulves en ont été les porteuses. Il y a l'histoire de celle qui s'est endormie 100 ans pour s'être blessée le doigt à son fuseau. Le fuseau étant donné pour le symbole du clitoris. À propos de cette histoire, elles font beaucoup de plaisanteries sur la maladresse de celle à qui les précieuses indications d'un féminaire ont manqué. Elles disent en riant qu'il faut qu'elle ait été le phénomène dont il est parlé par ailleurs, celle qui, à la place de la petite langue prompte au plaisir, a eu un dard venimeux. Elles disent qu'elles ne comprennent pas qu'on l'ait appelée la belle au bois dormant. Blanche-Neige court dans la forêt. Ses pieds se prennent dans les racines des arbres, ce qui fait qu'elle trébuche à tout moment. Elles disent que les petites filles connaissent l'histoire par cœur. Rose Écarlate, derrière, la suit, contrainte de courir en criant. Blanche-Neige dit qu'elle a peur. Blanche-Neige dit en courant « Oh mes aïeux, je me jette à vos sacrés genoux. » Rose Écarlate rit. Elle rit tellement qu'elle tombe, qu'elle se met en colère pour finir. Hurlant de rage, Rose Écarlate poursuit Blanche-Neige avec un bâton, menaçant de l'assommer si elle ne s'arrête. Blanche-Neige, plus blanche que la soie blanche de sa tunique, se laisse tomber au pied d'un arbre. C'est alors que Rose Écarlate, rouge comme une pivoine, ou bien rouge comme une rose rouge, va et vient avec fureur devant elle, en frappant la terre de son bâton en criant « Tu n'en as pas, tu n'en as pas !» Blanche-Neige tourne la tête à droite pour voir passer Rose Écarlate, puis à gauche pour la voir repasser, tandis qu'elle répète de plus en plus fort « Tu n'en as pas, tu n'en as pas !» Si bien que pour finir, Blanche-Neige demande « Qu'est-ce que je n'ai pas ?» Ce qui a pour effet d'immobiliser Rose Écarlate, disant « Des sacrés aïeux, tu n'en as pas !» Blanche-Neige dit qu'elle veut bien s'en passer, d'autant plus qu'elle n'a plus peur du tout, et s'emparant d'un bâton, elle se met à courir de tous côtés. On peut la voir cogner de toutes ses forces contre les troncs des arbres, cinglant les souples arbustes, frappant les racines moussues. À un moment donné, elle donne un grand coup de bâton à Rose Écarlate endormie au pied d'un chêne et ressemblant à une grosse racine, rose comme une rose rose. Elles disent qu'elles ont trouvé des appellations en très grand nombre pour désigner les vulves. Elles disent qu'elles en ont retenu quelques-unes pour leur amusement. La plupart ont perdu leur sens. Si elles se réfèrent à des objets, ce sont des objets à présent tombés en désuétude. Ou bien il s'agit de noms symboliques, géographiques. Il ne s'en trouve pas une parmi elles pour les déchiffrer. Les comparaisons, par contre, ne posent pas de problème. Par exemple, quand on a comparé les nymphes à des violettes, ou bien les vulves dans leur aspect général à des oursins, à des étoiles de mer. Des périphrases telles que « sexe aux doubles embouchures » sont relevées par les féminaires. Les textes disent également des vulves qu'elles ressemblent à des ulves, à des volutes. C'est un œil enfermé dans ses paupières qui bouge, qui brille, qui s'humidifie. C'est une bouche avec ses lèvres, sa langue, son palais rose. Les féminaires, outre les cercles, les anneaux, donnent pour symbole des vulves, les triangles coupés d'une bisectrice, les ovales, les ellipses. Les triangles ont été figurés dans tous les alphabets par une ou par deux lettres. On peut styliser les ovales ou les ellipses sous forme de losanges, ou bien sous forme de croissants de lune, c'est-à-dire des ovales partagés en deux. Ce sont les mêmes symboles sur les bagues ovales dont les chatons entourent des pierres de toutes les couleurs. D'après les féminaires, les bagues sont contemporaines des expressions telles que les bijoux, les trésors, les pierres, pour désigner les vulves.
Se peut que les féminaires aient rempli leurs offices. Ils disent qu'elles n'ont pas les moyens de le savoir. Elles disent que tous imprégnés qu'ils sont, de vieux textes qui pour la plupart ne sont plus entre leurs mains, ils leur ressemblent démodés. Tout ce qu'on peut en faire pour ne pas s'encombrer d'un savoir inutile, c'est de les entasser sur les places et d'y mettre le feu. Il y aurait là le prétexte à des fêtes. Parfois il pleut sur les îles oranges, vertes, bleues. Une brume alors se tient au-dessus d'elles sans dissimuler leurs couleurs. L'air que l'on respire est opaque et mouillé. Les poumons sont comme des éponges imbibées d'eau. Les requins avalent les colliers qu'on jette par-dessus bord pour les éloigner. Les verroteries en enfilade, les boules laiteuses. Certains restent accrochés aux dents de quelques requins qui se tournent et se retournent pour s'en débarrasser. Il se peut qu'on en aperçoive son ventre blanc, une végétation équatoriale est vue sur les rivages. Les arbres sont tout près de la mer. Ce sont des bananiers, des arangas, des oréodoxes, des euterpes, des archiers, des lataniers, des cariotes, des éléis, à moins que ce soit les chênes verts de l'Écosse. Il n'y a pas d'abri le long des plages, il n'y a pas d'anse, il n'y a pas de port. Les îles sont ceinturées d'une frange de mer bleue de céruléum. Elles se tiennent par exemple sur le pont du bateau. Marie-Agnès Myrne vomit les 47 oranges que par jeu elle a avalées entières. Elles tombent de sa bouche une à une. Des filets de salive les accompagnent. À un moment donné, les sirènes des bateaux sont entendues. À chacune de leurs avances, elles poussent un cri bref. Quand elles s'arrêtent, leurs voix ont de longues modulations. Elles se déplacent à la façon des kangourous, jambes jointes sur lesquelles elles se plient pour prendre leur élan. Parfois, elles tournent sur elles-mêmes comme des toupies, la tête dans leurs bras. C'est dans ce mouvement qu'elles exhalent un parfum d'arôme de lys, de verveine qui se répand d'un seul coup dans l'espace autour d'elles. Le parfum est différent suivant la vitesse de leur rotation. Il se décompose en passant par des tonalités diverses. Cela sent alors le réséda, le lilas, le gardenia ou bien le pois de senteur, le volubilis, la capucine. Cela sent la rose cuite, le litchi, le raisin de Corinthe. Cela sent les feuilles qui pourrissent dans la terre, les cadavres d'oiseaux. Quand la nuit tombe, elles quittent leur fourrure pour se coucher. Elles les disposent en forme de sac. Elles les suspendent aux branches des arbres et se glissent à l'intérieur. Leur colonie est vue couvrant les arbres, à perte de vue, de grosses boules de fourrure.
Dans la légende de Sophie Ménade, il est question d'un verger planté d'arbres de toutes les couleurs. Une femme nue y marche. Son beau corps est noir et brillant. Ses cheveux sont des serpents fins et mobiles qui produisent une musique à chacun de ses mouvements. C'est la chevelure conseillère. On l'appelle ainsi parce qu'elle communique par la bouche de ses 100 000 serpents avec la femme porteuse de la chevelure. Orphée, le serpent préféré de la femme qui marche dans le jardin, sans cesse lui conseille de manger du fruit de l'arbre du milieu du jardin. La femme goûte du fruit de chacun des arbres en demandant à Orphée, le serpent, comment reconnaître le bon. Il lui est répondu qu'il est étincelant, qu'à le regarder simplement, on a la joie au cœur. Ou bien, il lui est répondu que, dès qu'elle aura mangé le fruit, sa taille se développera, elle grandira, ses pieds ne quitteront pas le sol, tandis que son front touchera les étoiles. et lui, Orphée et les 100 000 serpents de sa chevelure, s'étendront de part et d'autre de son visage. Ils lui feront une couronne brillante. Ses yeux deviendront pâles comme des lunes. Elle aura la connaissance. Elle, alors, presse Sophie Ménade de questions. Sophie Ménade dit que la femme du verger aura la vraie connaissance du mythe solaire que tous les textes ont à dessein obscurci. Elle, alors, la presse de questions. Sophie Ménade dit « Soleil qui épouvante et ravi, insecte multicolore chatoyant, tu te consumes dans la mémoire nocturne, sexe qui flamboie, le cercle est ton symbole, de toute éternité tu es, de toute éternité tu seras. » Elles, à ces paroles, se mettent à danser en frappant la terre de leurs pieds. Elles commencent une danse circulaire en battant des mains, en faisant entendre un chant dont il ne sort pas une phrase logique.
Elles disent qu'à partir du moment où les féminaires font défaut, elles peuvent se reporter à ce temps où, pour ce qui les caractérise, elles ont fait la guerre. Elles disent que tout ce qu'elles ont fait faire, c'est inventer les termes qui les décrivent sans se reporter conventionnellement aux herbiers ou aux bestiaires. Elles disent que cela peut être fait sans emphase. Elles disent que ce qu'elles doivent avant tout mentionner, c'est leur force et leur courage. Le grand registre est posé sur la table ouverte. À tout moment, l'une d'entre elles s'en approche et écrit quelque chose. Il est difficile de le compulser parce qu'il est rarement disponible. Même alors, il est inutile de l'ouvrir à la première page et d'y chercher un ordre de succession. On peut le prendre au hasard et trouver quelque chose par quoi on est concerné. Cela peut être peu de choses. Les écritures, si diverses qu'elles soient, ont toutes un caractère commun. Il ne se passe pas de moment sans que l'une d'elles s'en approche pour y inscrire quelque chose. Ou alors c'est une lecture à haute voix d'un passage quelconque à laquelle il est procédé. Il se peut que beaucoup d'entre elles soient présentes pour la lecture. Il se peut aussi que la lecture se fasse sans assistance aucune, sauf une mouche qui importune la lectrice en se posant sur sa tempe.